VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 4 mars 2015. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Au sommaire de cette édition.
En République démocratique du Congo, l'opposition a déposé mardi au bureau de la Commission électorale nationale indépendante un nouveau calendrier en vue des élections de 2015 et 2016.
Le président bissau-guinéen réclame la conclusion des enquêtes sur les assassinats politiques d'il y a 5 ans, dont celui de l'ex-dirigeant Nino Vieira.
Grève de 3 jours des magistrats centrafricains, elle a commencé hier.
En Libye, des militants islamistes se sont emparés hier de 2 champs pétroliers.
Le Conseil de sécurité a renforcé hier ses moyens de pression sur les belligérants au Soudan du Sud.
Réaction mitigée au discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur le nucléaire iranien hier devant le Congrès des États-Unis.
Et heureux épilogue au bras de fer entre le président Obama et les parlementaires républicains, la Chambre des représentants approuve sans condition le financement du super ministère de la Sécurité intérieure.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Le président bissau-guinéen, José Mario Vaz, a exigé la conclusion des enquêtes sur les assassinats politiques perpétrés il y a 5 ans, dont celui du chef de l'État, Nino Vieira, et de son chef d'État-major. Des précisions avec Michel Joseph.
Prenant la parole lors de la rentrée judiciaire à Bissau, le chef de l'État a déclaré que des crimes comme l'assassinat de Nino Vieira et du général Tagme Naavai choquent le sentiment collectif du peuple et portent atteinte aux institutions de l'État. Il dit vouloir sauvegarder la crédibilité de l'appareil judiciaire en Guinée-Bissau en exigeant l'aboutissement de ces enquêtes qui se poursuivent sans résultat. João Bernardo Vieira, dit Nino, avait été assassiné en mars 2009 par des militaires quelques heures après un attentat à la bombe ayant tué le chef de l'armée. Apparemment un acte de vengeance, rappelle l'AFP. Mais les coupables n'ont pas été identifiés et punis. La justice a même remis en liberté des suspects, des militaires, faute de preuves. Réagissant à l'appel du président Vaz, le président de la Cour suprême, Paulo Sagna, a dit, et je cite, « sans des hommes préparés à la hauteur des événements et des moyens adéquats à leur disposition, il ne faut pas s'attendre à des résultats ». Quant au procureur général, Hermenegildo Pereira, il a déploré, toujours selon l'AFP, le manque chronique de moyens financiers pour les investigations, surtout quand il s'agit de crimes complexes.
En République centrafricaine, les magistrats sont en grève de 3 jours depuis hier. Ils réclament le paiement de primes de responsabilité et des frais d'évacuation sanitaire. On écoute le président du syndicat des magistrats de Centrafrique, Parfait Rodrigue Yangendia.
Le 15 juillet 2014, la chef de l'État de transition avait signé une série de décrets accordant des indemnités de responsabilité aux magistrats centrafricains. Les magistrats, dans leur traitement, n'ont jamais eu d'indemnité de responsabilité. On a été patients, on a attendu jusqu'au mois de janvier. Et au mois de janvier, on a encore été assez patients parce qu'on s'est dit qu'il y a eu un 12e provisoire qui avait été voté par Parlement provisoire pour gérer les affaires de l'État. Et dans le traitement du salaire du mois de février, on s'est rendu compte que ces indemnités n'ont pas été prises en compte, quand bien même le budget 2015 a intégré ces indemnités-là dans l'exécution, n'est-ce pas, donc, de la loi des finances 2015. C'est ainsi que nous avons mené des démarches au niveau des finances. N'ayant pas reçu de bonnes réponses, nous avons déposé un préavis de grève depuis le 19 février 2015 à l'intention du gouvernement, à savoir notre chef du département. Et lors de l'Assemblée générale, nous avons tiré les conséquences de ce que nos revendications n'ont pas eu gain de cause. Et donc, nous avons donc décidé d'observer un arrêt de travail de 3 jours.
En Libye, un officiel des services de sécurité a annoncé que des militants islamistes se sont emparés hier de 2 champs pétroliers après le retrait des forces qui étaient chargées de surveiller les sites d'Al-Bahi et d'Al-Mabrouk dans le centre du pays.
Ces installations pétrolières sont au centre de la lutte pour le pouvoir que se livrent les extrémistes islamistes qui contrôlent la capitale Tripoli et le gouvernement internationalement reconnu qui a dû se retrancher dans l'est de la Libye. La violence et le chaos politique se sont installés dans le pays depuis la chute et la mort de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi en 2011. L'ONU tente de conclure un accord de paix entre les parties en présence. Ces pourparlers doivent reprendre cette semaine au Maroc.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a accentué ses pressions sur le Soudan du Sud en créant hier, à l'unanimité de ses 15 membres, un comité qui vise à imposer des sanctions sur les individus qui violent les droits de l'homme dans ce pays. Ce comité pourra suggérer des mesures contre ceux qui menacent la stabilité du pays ou empêchent la fin de la violence qui, en 15 mois, a fait plus de 10 000 morts et 1,5 million de personnes déplacées.
La résolution rédigée par la représentante permanente des États-Unis, Samantha Power, n'exclut pas un éventuel embargo sur les armes si les parties en conflit ne respectent pas un accord de paix. Les pourparlers entre le gouvernement et les rebelles sud-soudanais se poursuivent en Éthiopie, où ils ont jusqu'à demain pour conclure un tel accord.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le discours mardi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devant les deux chambres du Congrès américain consacré au dossier nucléaire iranien a provoqué une série de réactions, dont celle du président américain Barack Obama. Les précisions de Jacques Aristide.
Un discours qui n'a rien apporté de nouveau et n'offre aucune alternative viable au règlement diplomatique. Les mots du locataire de la Maison-Blanche, Barack Obama, peu après l'intervention de Benjamin Netanyahou, qui a averti qu'un accord sur le nucléaire iranien n'empêcherait pas Téhéran d'avoir la bombe atomique. La chef de file des démocrates à la Chambre des représentants a été plus directe. Nancy Pelosi s'est dite attristée par l'insulte faite à l'intelligence des États-Unis, telle que le rapporte l'AFP. Une cinquantaine de démocrates ont boycotté le discours prononcé par un premier ministre en campagne électorale et qui espère que le Congrès, contrôlé par les républicains, votera de nouvelles sanctions à l'encontre de Téhéran. Ce à quoi Washington est opposé, de peur que les pourparlers internationaux qui se déroulent depuis un an et demi ne volent en éclats. Dans un communiqué, la porte-parole de la diplomatie iranienne, Marzieh Afkam, a dénoncé ce qu'elle appelle les mensonges continus de Netanyahou, devenus répétitifs et ennuyeux sur les objectifs et les intentions derrière le programme nucléaire pacifique de l'Iran. Dans les rues d'Israël, les électeurs étaient divisés deux semaines avant les élections générales, certains apportant leur soutien à ce discours, d'autres se disant hostiles à une telle interférence dans les affaires américaines.
Le secrétaire d'État américain John Kerry, aujourd'hui en Arabie Saoudite, pour tenter de rassurer les États membres du Conseil de coopération du Golfe quant à un éventuel accord sur le nucléaire iranien. Son message, un tel accord ne mènerait pas à l'instabilité dans la région.
En Irak, la coalition anti-État islamique a poursuivi son offensive lancée il y a 3 jours pour reprendre Tikrit dans le nord du pays. Cette force de 30 000 soldats irakiens et miliciens chiites et kurdes s'est heurtée dans sa progression aux tireurs embusqués et à des routes minées.
Ici à Washington, la Chambre des représentants a voté hier en faveur du financement sans condition du ministère de la Sécurité intérieure pour le restant de l'exercice fiscal, provoquant ainsi la colère de membres conservateurs qui voulaient toujours lier ce financement à des restrictions sur l'immigration. La même proposition de loi avait déjà été approuvée par le Sénat la semaine dernière. Elle va être maintenant soumise au président Obama pour signature.
C'est aujourd'hui que s'ouvre à Boston le procès de Dzhokhar Tsarnaev, qui avec son frère avait fait exploser 2 bombes à la ligne d'arrivée du marathon de Boston en avril 2013. Il risque la peine de mort. L'attentat avait fait 3 morts et plus de 260 blessés, dont au moins 16 amputés.
Toujours aux États-Unis, le département de la justice a conclu à l'issue d'une enquête que la police de Ferguson, dans le Missouri, s'est rendue régulièrement coupable de pratiques caractérisées par des préjugés raciaux. Selon l'agence Associated Press, ce rapport doit être publié aujourd'hui. Pour rappel, le gouvernement fédéral avait ouvert son enquête après la mort en août dernier de Michael Brown, l'adolescent noir non armé, abattu par un policier blanc, Darren Wilson.
L'ancien directeur de la CIA, David Petraeus, a conclu un accord avec le département américain de la justice sur sa mauvaise gestion de documents confidentiels du gouvernement. En admettant de plaider coupable de négligence, le général Petraeus bénéficierait d'une peine minimale. Chérubin Dorcil.
L'ancien patron de la CIA a accepté sa culpabilité dans l'usage non autorisé et la rétention de documents secrets qu'il a partagé avec sa biographe et maîtresse Paula Broadwell, un ancien officier réserviste de l'armée. L'accord met fin à une longue période d'incertitude pour le général qui a démissionné en tant que directeur de la CIA en novembre 2012 quand des détails ont émergé sur sa liaison extra-conjugale avec Broadwell. Les parties sont tombées d'accord pour recommander une peine de 2 ans de prison avec sursis et de 40 000 dollars d'amende. Le général David Petraeus ne connaîtra pas sa peine avant une semaine ou plus.
À présent, la Minute Écho avec Nathalie Barge.
Sahel 2015, le salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage a ouvert ses portes à Niamey hier. Des éleveurs et agriculteurs du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Togo y sont invités, indique l'agence de presse africaine. Plus de 30 000 visiteurs sont attendus à cette deuxième édition. Au menu de la rencontre notamment, le concept de la maison du paysan, financé par les autorités nigériennes. Comment les pays africains peuvent-ils gérer leur capital naturel vers le développement durable tout en comblant l'écart de pauvreté? C'est le thème de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui se déroule au Caire jusqu'au 6 mars. La tendance sur le continent est de promouvoir les emplois verts pour répondre aux défis environnementaux. Marcona Essangui, président de Brainforest Gabon.
Je crois aux emplois verts, mais en quoi faudrait-il que nos dirigeants soient complètement dans cette logique? Un pays comme le Gabon, par exemple, peut facilement promouvoir l'emploi vert, par exemple la promotion des produits forestiers non ligneux. Est-ce que, par exemple, au Gabon, les gens vivent des produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire en dehors du bois? Est-ce que d'autres produits peuvent faire vivre l'économie gabonaise?
Lors de la journée mondiale de la vie sauvage, hier, le Kenya a brûlé un important stock d'ivoire afin de lutter contre le braconnage en Afrique. Dans un geste symbolique, le président Uhuru Kenyatta a mis le feu à plus de 15 tonnes d'ivoire dont la valeur s'élèverait à plus de 30 millions de dollars. L'ivoire et les trophées prélevés sur les animaux sauvages doivent être rendus inutilisables partout dans le monde, a-t-il déclaré.
Maintenant les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Le CE Sport perd son entraîneur.
Rigo Gervais et le club de San Pedro se séparent d'un commun accord après l'élimination du triple champion ivoirien en Ligue des Champions. Rigo Gervais paie le mauvais début de saison des portuaires avec un effectif fortement remanié, voire décapité comme on dit en Côte d'Ivoire. Première réaction de Rigo Gervais suite à son limogeage en exclusivité sur VOA Afrique.
Je suis déçu. Et à Bamako que ça s'est passé, j'ai parlé aux voisins et aux autres dirigeants. Je pense qu'on a tout arrêté à l'amiable et que chacun va continuer son aventure. Bon, je pense qu'on était à un nouveau stade où j'étais en train de préparer une nouvelle équipe puisque j'ai perdu 9 éléments. Hein? Les nouveaux qui sont arrivés n'ont pas encore réussi à passer. Donc, tout ça mis ensemble, on ne pouvait pas avoir une équipe à la hauteur de celle de l'année dernière. C'était un nouveau cycle, il fallait être patient. Mais je pense que le climat permet plus de travailler parce qu'il a fait des méfiances, il n'y a plus de confiance et puis il y a trop de tensions inutiles. Alors, j'ai décidé de partir et puis de laisser la place à quelqu'un d'autre qui aura cette confiance-là des dirigeants pour pouvoir continuer le travail.
Rigo Gervais, ex-entraîneur du CE Sport San Pedro, une interview à retrouver en intégralité sur voafrique.com.
En Europe, on joue en coupe.
Le FC Barcelone et l'Espagnol Barcelone sont favoris pour les demi-finales. Retour de la Coupe du Roi ce mercredi. Le Barça affronte Villarreal et l'Espagnol face à l'Atlético Bilbao. En Italie, la première demi-finale allée de la Coupe nationale opposera tout à l'heure la Lazio de Rome à Naples. Ces deux équipes ont été les derniers vainqueurs du trophée. Quant à la Juventus de Turin, leader du championnat, elle reçoit jeudi la Fiorentina.
Le tirage au sort de la phase finale de l'Afrobasket 2015 aura lieu dans un mois.
Le 4 avril, à Tunis, pour connaître les affiches du championnat d'Afrique des nations masculin de basketball. La FIBA Afrique rappelle que ce tournoi regroupe 16 équipes du 19 au 30 août à Neubel et à Hammamet. À ce jour, 11 pays sont déjà qualifiés pour cet Afrobasket 2015. La Tunisie, pays organisateur, l'Angola, champion en titre, mais aussi le Maroc, le Mali, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Égypte, l'Ouganda, le Zimbabwe et le Mozambique. Et puis sur d'autres parquets, ici aux États-Unis, la NBA. Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de la nuit.
LA Lakers 103, Charlotte 104, Boston 79, Cleveland 110, Houston 96, Atlanta 104, Washington 92, Chicago 97. Utah 93, Memphis 82.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'opposition a déposé mardi au bureau de la Commission électorale nationale indépendante un nouveau calendrier en vue des élections de 2015 et 2016. Il s'agit d'un document d'une dizaine de pages contenant les propositions que les représentants de nombreux partis de l'opposition ont remises au vice-président de la CENI. Reportage de Walter Kui de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Les propositions des différents partis politiques de l'opposition ont été compilées dans un document d'une dizaine de pages. Cette composante de la classe politique congolaise a dans son préambule dit vouloir des élections libres, transparentes, crédibles pour éviter des couacs. Ingele Ifoto était le rapporteur général du jour.
La démocratie elle-même a un régulateur. Le régulateur, c'est les élections. Nous voudrions que ce soit les élections prévues par la Constitution. Des élections transparentes, des élections démocratiques crédibles. Pour le faire, il faudra préparer ces processus pour que les élections soient apaisées. Donc, nous cherchons à créer un climat de confiance pour éviter qu'il y ait des couacs dans le processus.
Mais à quoi s'attend-on après avoir déposé cette proposition? Joseph Olengankoy, président de FONUS, nous répond.
Nous nous attendons à apaiser l'ensemble de notre peuple pour qu'il y ait des élections apaisées, transparentes. Notre démarche, en fait, c'est pour témoigner l'amour que nous avons envers ce pays, voir réellement la passation du pouvoir en 2016 entre le président entrant et le président sortant.
Pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas ramené ce débat au Parlement? John Kolela, député de l'UDPS, est clair.
Même si le débat sera orienté vers l'Assemblée nationale, nous avons souhaité mettre tout le monde à temps utile à ceux qui puissent être imprégnés de notre position. C'est-à-dire, nous voulons le débat à tout le niveau, de sorte que tout le monde soit suffisamment informé. Mais malheureusement, au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée n'est pas là, le président du Sénat non plus n'est pas là. Ce calendrier, c'est vrai qu'il est global, mais il viole la Constitution et il viole aussi les consensus. C'est une lettre de toute l'opposition pour tirer le signal d'alarme par rapport au danger qui est en train de nous guetter.
Certains opposants comme Corneille Moulumba indiquent que le vert est déjà dans le fruit parce que les articles 115 et 145 de la nouvelle loi électorale conditionnent la répartition des sièges et le quotient électoral à un préalable identification de la population, ce qui risque de tirer les choses en longueur.
C'était Walter Kui de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza, à Lubumbashi, province du Katanga.
Près de 7000 soldats en provenance du Cameroun et du Tchad ont pris position à la frontière septentrionale du Cameroun, limitrophe du Nigeria. Ils sont prêts à frapper contre la milice Boko Haram, mais accusent les insurgés d'avoir posé des mines, Camille Grosdidier.
C'est à partir de Fotokol au Cameroun que le contingent tchadien organise ses frappes contre les localités nigérianes saisies par Boko Haram et aide le Cameroun à protéger son territoire. Il est impératif pour les soldats de mieux se connaître, fait valoir le capitaine Beltus Kwene.
Les forces amies tchadiennes qui avaient pris place en avant de nos positions ont travaillé avec nous et l'ennemi a profité de ce moment de rodage pour s'intercaler entre les deux lignes. Notre première ligne de défense a été brièvement repoussée, mais nous nous sommes organisés et avec l'appui de nos amis, nous avons pu repousser l'ennemi et nous avons récupéré à ce jour nos positions que nous tenons d'ailleurs fermement.
Les militaires se relaient pour protéger le pont sur la rivière El Bayd qui sépare Fotokol de la ville de Gambaru au Nigeria. Boko Haram a occupé la localité pendant plusieurs mois avant que l'armée tchadienne ne les en chasse en février. Des milliers de civils ont péri à cette occasion, même si, selon Richard T, un soldat camerounais qui a pris part aux opérations contre les islamistes, nombre d'entre eux ont pu être épargnés parce que les militaires tchadiens et camerounais savaient identifier les militants de Boko Haram à leur accoutrement. Des unités tchadiennes et camerounaises sont également stationnées dans le village de Kerawa au Cameroun, qui tient tient son nom de la montagne dominant le paysage juste de l'autre côté de la frontière. Un site où, selon le capitaine Aziz et Abdourahman, des djihadistes poursuivent leur entraînement.
Juste derrière nous, nous avons cette colline-là, c'est le mont Kerawa, qui lui est situé en territoire nigérien. Donc derrière la montagne, on a un important dispositif de combattants Boko Haram. On a le camp d'entraînement, il leur arrive de faire des tirs et on écoute ça à partir d'ici. On a leur mosquée, où ils se retrouvent pour prier généralement après chaque combat et avant aussi. On a le petit poste de commandement qu'ils ont pour les chefs qui se trouvent en territoire Kerawa nigérien.
Ibrahim Janko, capitaine de l'armée camerounaise, souligne que les islamistes de Boko Haram ne semblent guère troublés par la présence de l'armée tchadienne et camerounaise dans le secteur. Quand ils jugent le moment propice, ils passent la frontière pour attaquer Kolofata, site d'une des principales bases des alliés. Plus récemment, ils ont planté des mines sur les routes. En février, 8 militaires camerounais ont trouvé la mort suite à l'explosion d'une mine sur la route entre Kolofata et Kerewa. Les forces camerounaises ont reçu des équipements et des séances de formation des États-Unis et de la Russie pour détecter et détruire ces mines.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Des groupes de la société civile gabonaise et guinéenne ont déposé plainte en France ce mardi contre l'entreprise Gemalto, numéro 1 mondial de la biométrie, dans le cadre de la réalisation des systèmes de fichiers électoraux et d'état civil. Nathalie Barge a joint hier à Paris Marc Ona Essangui, figure de proue de la société civile gabonaise.
Malheureusement, entre les sommes qui ont été englouties et le travail qui a été rendu dans un premier temps en 2013, on se pose pas mal de questions. Comment se fait-il que Gemalto mette en place un système dans la mise en place de la biométrie sans pourtant commencer par le fichier d'état civil? Et quand on arrive aux élections, cette biométrie n'est pas allée jusqu'à l'authentification de l'électeur. Et qu'on retrouve encore un nombre maximum de doublons, on a parlé de 21 000 doublons, alors qu'on a injecté 40 milliards de francs CFA, ça fait 60 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, pour 500 000 électeurs. Alors on se dit, il y a un problème.
Et vous êtes plusieurs organisations à déposer cette plainte?
Il y a le CRAN France. Le CRAN, c'est le conseil représentatif des associations noires en France. Il y a la société civile gabonaise, dont moi, et puis il y a une ONG gabonaise qui s'occupe de la responsabilité sociétale des entreprises. Et puis, il y a la société civile guinéenne qui s'est joint à la plainte, Guinée-Conakry. Donc, nous sommes nombreux, parce que ce qu'on a vécu au Gabon risque d'être vécu en Guinée-Conakry, où effectivement, cet opérateur a obtenu un marché pour faire la même chose. On soupçonne qu'il y ait une nouvelle stratégie france-africaine, c'est-à-dire il n'y a plus de coup d'État tel qu'on le faisait, c'est-à-dire quand la France n'a plus besoin d'un président, on passe par un coup d'État, mais on introduit dans le système électoral des opérateurs qui viennent tripatouiller le fichier électoral pour toujours maintenir des dictateurs au pouvoir. Le 8 juillet, on a porté plainte au Gabon. On savait très bien que cette plainte ne devait pas prospérer. Quand on vient porter plainte en France, il est évident que la juridiction française va nous demander si nous avons fait la même chose dans notre pays. Et c'est pour ça qu'on a porté plainte d'abord au Gabon, sachant que ça ne va pas prospérer, mais ici, dans l'espoir qu'un juge d'instruction se saisisse du dossier pour exiger ce que nous exigeons à Gemalto, c'est-à-dire présenter, rendre public non seulement le contrat passé avec l'État gabonais, mais aussi le cahier de charge qui lui a permis de faire le travail. Et surtout, chercher à savoir combien cette entreprise a encaissé. Entre ce qui est mentionné dans les deux lois de finances 2011-2012, c'est-à-dire 40 milliards, et ce que l'entreprise a réellement empoché. Parce qu'il y a des soupçons de corruption d'agents publics étrangers.
C'était Marc Ona Essangui, figure de proue de la société civile gabonaise.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur le problème d'accès à l'électricité en Afrique. Comment en êtes-vous affecté dans vos pays respectifs? Vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
VOA Afrique, c'est sur 102 FM à Dakar. Le lancement officiel a eu lieu hier dans la capitale sénégalaise en présence du nouvel ambassadeur américain au Sénégal, James Zumwalt. En marge des cérémonies, Idriss Fall, notre envoyé spécial, a tendu son micro à des jeunes de Dakar pour leur demander l'importance des médias dans leur vie quotidienne.
lorsqu'il s'agit de passer à la loupe les médias sénégalais, les jeunes dakarois sont assez partagés. Il y a d'abord les accros de la presse sous toutes ses formes à consommer au quotidien sans aucune modération.
Je m'appelle pas Moussa Traoré. Je ne peux pas rester un jour sans connaître ce qui se passe. D'un moment à l'autre, je parcours le monde, entre guillemets, à travers les médias. Ça devient indispensable.
C'est Fama Dion. Les médias occupent une place très centrale dans ma vie. On peut dire que c'est une sorte de complicité entre moi et les médias, dans la mesure où le fait de rester toute une journée sans écouter ni la radio, sans regarder la télé, ni lire les journaux, je suis un peu déconnecté du monde. Je ne parle même pas de ne pas regarder le site internet.
Je m'appelle Laurent Mendy. Lorsque le virus Ebola a apparu, le premier rôle des journalistes a été d'informer et d'éduquer les populations, de les sensibiliser par rapport à ce virus qui était vraiment dangereux pour notre société.
Bonjour, c'est Mam Astoukane, journaliste à Wolfa Diri Quotidien. En premier lieu, je l'ai choisi par vocation. C'est un métier noble qui nous permet de découvrir le monde de par les informations, de par nous-mêmes journalistes, d'aller sur le terrain, de regrouper des informations, de venir les servir à nos publics, à nos auditeurs ou bien à nos lecteurs.
Il y a aussi des jeunes plutôt sceptiques.
Je me nomme Mohamed Doudoutal. Il y a un problème. La majeure partie des jeunes, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, n'ont pas le temps d'écouter de la radio. Les principaux cibles des médias sont des femmes au foyer, les femmes de ménage et comme ça. Nous avons aussi un système qui ne nous encourage pas à acquérir l'information en tant que telle. Ils font de telle sorte qu'on ne s'intéresse pas à la politique, on ne s'intéresse pas à la santé, on ne s'intéresse à rien du tout. C'est ce qui pousse beaucoup de jeunes qu'ils n'écoutent pas certaines radios.
Je me nomme Serge. L'implication de la radio au sein de ma vie est très importante parce que l'information, je suis au diapason de tout ce qui se passe concernant mon pays et à l'international. Mais quand même, il y a des aspects négatifs, faut qu'on le dise. Il y a de ces choses, on n'a pas besoin de les écouter, les faits divers, parce que ça nous avance à rien.
C'est important là, parce que à chaque fois, on est collé à l'actualité, on est au courant de tout ce qui passe dans le monde, donc on peut dire que il y a que d'importance. Mais des fois, ça agite dans la société. Je peux dire les propos émis par Wad, vraiment, ce côté-là, donc ça un peu agit la société.
Mon confrère disait, le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir. Et pour s'en sortir, certains journalistes sénégalais sont prêts à tout, même à vendre leur âme au pouvoir et à des pièces sonnantes et trébuchantes, ce qui suscite l'indignation de ces jeunes dakarois.
La corruption est due surtout à la faute des patrons de presse qui n'ont aucun salaire décent à leurs travailleurs.
Vous êtes en train de dire que quand on est pauvre, on doit voler.
Pour refuser ça, certains journalistes, c'est mon cas, je ne peux pas citer l'organe où j'étais, je vivais d'une galère très dure. Je préfère revendiquer cela à l'interne. On m'a fait savoir que ici, il n'y a pas raison de se lamenter. Je préférais quitter là-bas.
Bakary Cissé, journaliste stagiaire à Oxygène FM. Je vais relativiser cette question parce que même si la corruption est omniprésente dans tous les secteurs presque, il y a certains journalistes qui ont l'honneur, qui ont la dignité en Wolof Longor, le Diom. Ils ne vont pas quand même vendre cette dignité pour être corrompus. Évidemment, de l'autre côté, dire que la corruption, elle est bien présente parce que il y a certains journalistes qui travaillent dans des conditions misérables. Si vous prenez le cas des radios communautaires, les journalistes se décarcassent, se donnent au fond, essaient vraiment de produire de très bonnes informations.
Depuis Dakar, Idriss Fall, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Change.
aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Et bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 4 mars 2015. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Au sommaire de cette édition...
En République démocratique du Congo, l'opposition a déposé mardi au bureau de la Commission électorale nationale indépendante un nouveau calendrier en vue des élections de 2015 et 2016.
Le président Bissau-Guinéen réclame la conclusion des enquêtes sur les assassinats politiques d'il y a 5 ans, dont celui de l'ex-dirigeant Nino Vieira.
Grève de 3 jours des magistrats centrafricains, elle a commencé hier.
En Libye, des militants islamistes se sont emparés hier de 2 champs pétroliers.
Le Conseil de sécurité a renforcé hier ses moyens de pression sur les belligérants au Soudan du Sud.
Réaction mitigée au discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou sur le nucléaire iranien hier devant le Congrès des États-Unis.
Et heureux épilogue au bras de fer entre le président Obama et les parlementaires républicains, la Chambre des représentants approuve sans condition le financement du super ministère de la Sécurité intérieure.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Le président Bissau-Guinéen, José Mario Vaz, a exigé la conclusion des enquêtes sur les assassinats politiques perpétrés il y a 5 ans, dont celui du chef de l'État, Nino Vieira, et de son chef d'État-major. Des précisions avec Michel Joseph.
Prenant la parole lors de la rentrée judiciaire à Bissau, le chef de l'État a déclaré que des crimes comme l'assassinat de Nino Vieira et du général Tagme Naavai choquent le sentiment collectif du peuple et portent atteinte aux institutions de l'État. Il dit vouloir sauvegarder la crédibilité de l'appareil judiciaire en Guinée-Bissau en exigeant l'aboutissement de ces enquêtes qui se poursuivent sans résultat. João Bernardo Vieira, dit Nino, avait été assassiné en mars 2009 par des militaires quelques heures après un attentat à la bombe ayant tué le chef de l'armée. Apparemment un acte de vengeance, rappelle l'AFP. Mais les coupables n'ont pas été identifiés et punis. La justice a même remis en liberté des suspects, des militaires, faute de preuves. Réagissant à l'appel du président Vaz, le président de la Cour suprême, Paulo Sagna, a dit, et je cite, « sans des hommes préparés à la hauteur des événements et des moyens adéquats à leur disposition, il ne faut pas s'attendre à des résultats ». Quant au procureur général, Hermenegildo Pereira, il a déploré, toujours selon l'AFP, le manque chronique de moyens financiers pour les investigations, surtout quand il s'agit de crimes complexes.
En République centrafricaine, les magistrats sont en grève de 3 jours depuis hier. Ils réclament le paiement de primes de responsabilité et des frais d'évacuation sanitaire. On écoute le président du syndicat des magistrats de Centrafrique, Parfait Rodrigue Yangendia.
Le 15 juillet 2014, la chef de l'État de transition avait signé une série de décrets accordant des indemnités de responsabilité aux magistrats centrafricains. Les magistrats, dans leur traitement, n'ont jamais eu d'indemnité de responsabilité. On a été patients. On a attendu jusqu'au mois de janvier. Et au mois de janvier, on a encore été assez patient parce qu'on s'est dit qu'il y avait un 12e provisoire qui avait été voté par l'an provisoire pour gérer les affaires de l'État. Et dans le traitement du salaire du mois de février, on s'est rendu compte que ces indemnités n'ont pas été prises en compte, quand bien même le budget 2015 a intégré ces indemnités-là dans l'exécution, n'est-ce pas, donc de la loi des finances 2015. C'est ainsi que nous avons mené des démarches au niveau des finances. N'ayant pas reçu de bonnes réponses, nous avons déposé un préavis de grève depuis le 19 février 2015 à l'intention du gouvernement, à savoir notre chef de département. Et lors de l'Assemblée générale, nous avons tiré les conséquences de ce que nos revendications n'ont pas eu gain de cause. Et donc, nous avons donc décidé d'observer un arrêt de travail de 3 jours.
En Libye, un officiel des services de sécurité a annoncé que des militants islamistes se sont emparés hier de 2 champs pétroliers après le retrait des forces qui étaient chargées de surveiller les sites d'Al-Bahi et d'Al-Mabrouk dans le centre du pays.
Ces installations pétrolières sont au centre de la lutte pour le pouvoir que se livrent les extrémistes islamistes qui contrôlent la capitale Tripoli et le gouvernement internationalement reconnu qui a dû se retrancher dans l'est de la Libye. La violence et le chaos politique se sont installés dans le pays depuis la chute et la mort de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi en 2011. L'ONU tente de conclure un accord de paix entre les parties en présence. Ces pourparlers doivent reprendre cette semaine au Maroc.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a accentué ses pressions sur le Soudan du Sud en créant hier, à l'unanimité de ses 15 membres, un comité qui vise à imposer des sanctions sur les individus qui violent les droits de l'homme dans ce pays. Ce comité pourra suggérer des mesures contre ceux qui menacent la stabilité du pays ou empêchent la fin de la violence qui, en 15 mois, a fait plus de 10 000 morts et 1,5 million de personnes déplacées.
La résolution, rédigée par la représentante permanente des États-Unis, Samantha Power, n'exclut pas un éventuel embargo sur les armes si les parties en conflit ne respectent pas un accord de paix. Les pourparlers entre le gouvernement et les rebelles sud-soudanais se poursuivent en Éthiopie, où ils ont jusqu'à demain pour conclure un tel accord.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le discours mardi du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devant les deux chambres du Congrès américain consacré au dossier nucléaire iranien a provoqué une série de réactions, dont celle du président américain Barack Obama. Les précisions de Jacques Aristide.
Un discours qui n'a rien apporté de nouveau et n'offre aucune alternative viable au règlement diplomatique. Les mots du locataire de la Maison-Blanche, Barack Obama, peu après l'intervention de Benjamin Netanyahou, qui a averti qu'un accord sur le nucléaire iranien n'empêcherait pas Téhéran d'avoir la bombe atomique. La chef de file des démocrates à la Chambre des représentants a été plus directe. Nancy Pelosi s'est dite attristée par l'insulte faite à l'intelligence des États-Unis, telle que le rapporte l'AFP. Une cinquantaine de démocrates ont boycotté le discours prononcé par un premier ministre en campagne électorale et qui espère que le Congrès, contrôlé par les républicains, votera de nouvelles sanctions à l'encontre de Téhéran. Ce à quoi Washington est opposé, de peur que les pourparlers internationaux qui se déroulent depuis un an et demi ne volent en éclats. Dans un communiqué, la porte-parole de la diplomatie iranienne, Marzieh Afkam, a dénoncé ce qu'elle appelle les mensonges continus de Netanyahou, devenus répétitifs et ennuyeux sur les objectifs et les intentions derrière le programme nucléaire pacifique de l'Iran. Dans les rues d'Israël, les électeurs étaient divisés deux semaines avant les élections générales, certains apportant leur soutien à ce discours, d'autres se disant hostiles à une telle interférence dans les affaires américaines.
Le secrétaire d'État américain John Kerry, aujourd'hui en Arabie Saoudite, pour tenter de rassurer les États membres du Conseil de coopération du Golfe quant à un éventuel accord sur le nucléaire iranien. Son message, un tel accord ne mènerait pas à l'instabilité dans la région.
En Irak, la coalition anti-État islamique a poursuivi son offensive lancée il y a trois jours pour reprendre Tikrit dans le nord du pays. Cette force de 30 000 soldats irakiens et miliciens chiites et kurdes s'est heurtée dans sa progression aux tireurs embusqués et à des routes minées.
Ici à Washington, la Chambre des représentants a voté hier en faveur du financement sans condition du ministère de la Sécurité intérieure pour le restant de l'exercice fiscal, provoquant ainsi la colère de membres conservateurs qui voulaient toujours lier ce financement à des restrictions sur l'immigration. La même proposition de loi avait déjà été approuvée par le Sénat la semaine dernière. Elle va être maintenant soumise au président Obama pour signature.
C'est aujourd'hui que s'ouvre à Boston le procès de Dzhokhar Tsarnaev, qui avec son frère avait fait exploser deux bombes à la ligne d'arrivée du marathon de Boston en avril 2013. Il risque la peine de mort. L'attentat avait fait trois morts et plus de 260 blessés, dont au moins 16 amputés.
Toujours aux États-Unis, le département de la justice a conclu à l'issue d'une enquête que la police de Ferguson, dans le Missouri, s'est rendue régulièrement coupable de pratiques caractérisées par des préjugés raciaux. Selon l'agence Associated Press, ce rapport doit être publié aujourd'hui. Pour rappel, le gouvernement fédéral avait ouvert son enquête après la mort en août dernier de Michael Brown, l'adolescent noir non armé abattu par un policier blanc, Darren Wilson.
L'ancien directeur de la CIA, David Petraeus, a conclu un accord avec le département américain de la justice sur sa mauvaise gestion de documents confidentiels du gouvernement. En admettant de plaider coupable de négligence, le général Petraeus bénéficierait d'une peine minimale. Chérubin Dorcil.
L'ancien patron de la CIA a accepté sa culpabilité dans l'usage non autorisé et la rétention de documents secrets qu'il a partagés avec sa biographe et maîtresse Paula Broadwell, un ancien officier réserviste de l'armée. L'accord met fin à une longue période d'incertitude pour le général qui a démissionné en tant que directeur de la CIA en novembre 2012 quand des détails ont émergé sur sa liaison extra-conjugale avec Broadwell. Les parties sont tombées d'accord pour recommander une peine de 2 ans de prison avec sursis et de 40 000 $ d'amende. Le général David Petraeus ne connaîtra pas sa peine avant une semaine ou plus.
À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Sahel 2015, le salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage a ouvert ses portes à Niamey hier. Des éleveurs et agriculteurs du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Togo y sont invités, indique l'agence de presse africaine. Plus de 30 000 visiteurs sont attendus à cette deuxième édition. Au menu de la rencontre, notamment le concept de la maison du paysan, financé par les autorités nigériennes. Comment les pays africains peuvent-ils gérer leur capital naturel vers le développement durable tout en comblant l'écart de pauvreté? C'est le thème de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement qui se déroule au Caire jusqu'au 6 mars. La tendance sur le continent est de promouvoir les emplois verts pour répondre aux défis environnementaux. Marcona Essangui, président de Brainforest Gabon.
Je crois aux emplois verts, mais en quoi faudrait-il que nos dirigeants soient complètement dans cette logique? Un pays comme le Gabon, par exemple, peut facilement promouvoir l'emploi vert, par exemple la promotion des produits forestiers non ligneux. Est-ce que, par exemple, au Gabon, les gens vivent des produits forestiers non ligneux, c'est-à-dire en dehors du bois. Est-ce que d'autres produits peuvent faire vivre l'économie gabonaise?
Lors de la journée mondiale de la vie sauvage, hier, le Kenya a brûlé un important stock d'ivoire afin de lutter contre le braconnage en Afrique. Dans un geste symbolique, le président Uhuru Kenyatta a mis le feu à plus de 15 tonnes d'ivoire dont la valeur s'élèverait à plus de 30 millions de dollars. L'ivoire et les trophées prélevés sur les animaux sauvages doivent être rendus inutilisables partout dans le monde, a-t-il déclaré.
Maintenant les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Le CE Sport perd son entraîneur.
Rigo Gervais et le club de San Pedro se séparent d'un commun accord après l'élimination du triple champion ivoirien en Ligue des Champions. Rigo Gervais paie le mauvais début de saison des portuaires avec un effectif fortement remanié, voire décapité comme on dit en Côte d'Ivoire. Première réaction de Rigo Gervais suite à son limogeage en exclusivité sur VOA Afrique.
Je confirme, je suis déçu. Et à Bamako que ça s'est passé, j'ai parlé aux voisins et aux autres dirigeants. Je pense qu'on a tout arrêté à l'amiable et que chacun va continuer son aventure. Bon, je pense qu'on était à un nouveau stade où j'étais en train de préparer une nouvelle équipe puisque j'ai perdu 9 éléments. Hein? Les nouveaux qui sont arrivés n'ont pas encore réussi à passer. Donc, tout ça mis ensemble, on ne pouvait pas avoir une équipe à la hauteur de celle de l'année dernière. C'était un nouveau cycle, il fallait être patient. Mais je pense que le climat ne permet plus de travailler parce qu'il a fait de méfiance, il n'y a plus de confiance et puis il y a trop de tensions inutiles. Alors, j'ai décidé de partir et puis de laisser la place à quelqu'un d'autre qui aura cette confiance-là des dirigeants pour pouvoir continuer le travail.
Rigo Gervais, ex-entraîneur du CE Sport San Pedro, une interview à retrouver en intégralité sur voafrique.com.
En Europe, on joue en coupe.
Le FC Barcelone et l'Espagnol Barcelone sont favoris pour les demi-finales. Retour de la Coupe du Roi ce mercredi. Le Barça affronte Villarreal et l'Espagnol face à l'Atlético Bilbao. En Italie, la première demi-finale allée de la Coupe nationale opposera tout à l'heure la Lazio de Rome à Naples. Ces deux équipes ont été les derniers vainqueurs du trophée. Quant à la Juventus de Turin, leader du championnat, elle reçoit jeudi la Fiorentina.
Le tirage au sort de la phase finale de l'Afrobasket 2015 aura lieu dans un mois.
Le 4 avril, à Tunis, pour connaître les affiches du championnat d'Afrique des Nations masculin de basketball. La FIBA Afrique rappelle que ce tournoi regroupe 16 équipes du 19 au 30 août à Neubel et à Hammamet. À ce jour, 11 pays sont déjà qualifiés pour cet Afrobasket 2015. La Tunisie, pays organisateur, l'Angola, champion en titre, mais aussi le Maroc, le Mali, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Égypte, l'Ouganda, le Zimbabwe et le Mozambique. Et puis sur d'autres parquets, ici aux États-Unis, la NBA. Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de la nuit.
LA Lakers 103, Charlotte 104, Boston 79, Cleveland 110, Houston 96, Atlanta 104, Washington 92, Chicago 97, Utah 93, Memphis 82.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, l'opposition a déposé mardi au bureau de la Commission électorale nationale indépendante un nouveau calendrier en vue des élections de 2015 et 2016. Il s'agit d'un document d'une dizaine de pages contenant les propositions que les représentants de nombreux partis de l'opposition ont remises au vice-président de la CENI. Reportage de Walter Kui de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
Les propositions des différents partis politiques de l'opposition ont été compilées dans un document d'une dizaine de pages. Cette composante de la classe politique congolaise a dans son préambule dit vouloir des élections libres, transparentes, crédibles pour éviter des couacs. Ingele Ifoto était le rapporteur général du jour.
La démocratie elle-même a un régulateur. Le régulateur, c'est les élections. Nous voudrions que ce soit les élections prévues par la Constitution. Des élections transparentes, des élections démocratiques crédibles. Pour le faire, il faudra préparer ces processus pour que les élections soient apaisées. Donc, nous cherchons à créer un climat de confiance pour éviter qu'il y ait des couacs dans le processus.
Mais à quoi s'attend-on après avoir déposé cette proposition? Joseph Olengankoy, président de FONUS, nous répond.
Nous nous attendons à apaiser l'ensemble de notre peuple pour qu'il y ait des élections apaisées, transparentes. Notre démarche, en fait, c'est pour témoigner l'amour que nous avons envers ce pays, voir réellement la passation du pouvoir en 2016 entre le président entrant et le président sortant.
Pourquoi l'opposition n'a-t-elle pas ramené ce débat au Parlement? John Kolela, député de l'UDPS, est clair.
Même si le débat sera orienté vers l'Assemblée nationale, nous avons souhaité mettre tout le monde à temps utile à ceux qui puissent être imprégnés de notre position. C'est-à-dire, nous voulons le débat à tout le niveau, de sorte que tout le monde soit suffisamment informé. Mais malheureusement, au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée n'est pas là, le président du Sénat non plus n'est pas là. Ce calendrier, c'est vrai qu'il est global, mais il viole la Constitution et il viole aussi les consensus. C'est une lettre de toute l'opposition pour tirer le signal d'alarme par rapport au danger qui est en train de nous guetter.
Certains opposants comme Corneille Moulumba indiquent que le vert est déjà dans le fruit parce que les articles 115 et 145 de la nouvelle loi électorale conditionne la répartition des sièges et le quotient électoral à un préalable identification de la population, ce qui risque de tirer les choses en longueur.
C'était Walter Kui de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur Radio Télé Mwangaza à Lubumbashi, province du Katanga.
Près de 7000 soldats en provenance du Cameroun et du Tchad ont pris position à la frontière septentrionale du Cameroun, limitrophe du Nigeria. Ils sont prêts à frapper contre la milice Boko Haram, mais accusent les insurgés d'avoir posé des mines, Camille Grosdidier.
C'est à partir de Fotokol au Cameroun que le contingent tchadien organise ses frappes contre les localités nigérianes saisies par Boko Haram et aide le Cameroun à protéger son territoire. Il est impératif pour les soldats de mieux se connaître, fait valoir le capitaine Beltus Kwene.
Les forces amies tchadiennes qui avaient pris place en avant de nos positions ont travaillé avec nous et l'ennemi a profité de ce moment de rodage pour s'intercaler entre les deux lignes. Notre première ligne de défense a été brièvement repoussée, mais nous nous sommes organisés et avec l'appui de nos amis, nous avons pu repousser l'ennemi et nous avons récupéré à ce jour nos positions que nous tenons d'ailleurs fermement.
Les militaires se relaient pour protéger le pont sur la rivière Elbeid qui sépare Fotokol de la ville de Gambaru au Nigeria. Boko Haram a occupé la localité pendant plusieurs mois avant que l'armée tchadienne ne les en chasse en février. Des milliers de civils ont péri à cette occasion, même si, selon Richard T., un soldat camerounais qui a pris part aux opérations contre les islamistes, nombre d'entre eux ont pu être épargnés parce que les militaires tchadiens et camerounais savaient identifier les militants de Boko Haram à leur accoutrement. Des unités tchadiennes et camerounaises sont également stationnées dans le village de Kerawa au Cameroun, qui tient son nom de la montagne dominant le paysage juste de l'autre côté de la frontière. Un site où, selon le capitaine Azizé Abdourahman, des djihadistes poursuivent leur entraînement.
Juste derrière nous, nous avons cette colline-là, c'est le mont Kerawa, qui lui est situé en territoire nigérien. Donc derrière la montagne, on a un important dispositif de combattants Boko Haram. On a le camp d'entraînement, il leur arrive de faire des tirs et on écoute ça à partir d'ici. On a leur mosquée où ils se retrouvent pour prier généralement après chaque combat et avant aussi. On a un petit poste de commandement qu'ils ont pour les chefs qui se trouvent en territoire Kerawa nigérien.
Ibrahim Janko, capitaine de l'armée camerounaise, souligne que les islamistes de Boko Haram ne semblent guère troublés par la présence de l'armée tchadienne et camerounaise dans le secteur. Quand ils jugent le moment propice, ils passent la frontière pour attaquer Kolofata, site d'une des principales bases des alliés. Plus récemment, ils ont planté des mines sur les routes. En février, 8 militaires camerounais ont trouvé la mort suite à l'explosion d'une mine sur la route entre Kolofata et Kerewa. Les forces camerounaises ont reçu des équipements et des séances de formation des États-Unis et de la Russie pour détecter et détruire ces mines.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Des groupes de la société civile gabonaise et guinéenne ont déposé plainte en France ce mardi contre l'entreprise Gemalto, numéro 1 mondial de la biométrie, dans le cadre de la réalisation des systèmes de fichiers électoraux et d'état civil. Nathalie Barge a joint hier à Paris Marc Ona Essangui, figure de proue de la société civile gabonaise.
Malheureusement, entre les sommes qui ont été englouties et le travail qui a été rendu dans un premier temps en 2013, on se pose pas mal de questions. Comment se fait-il que Gemalto mette en place un système dans la mise en place de la biométrie sans pourtant commencer par le fichier d'état civil? Et quand on arrive aux élections, cette biométrie n'est pas allée jusqu'à l'authentification de l'électeur. Et qu'on retrouve encore un nombre maximum de doublons, on a parlé de 21 000 doublons, alors qu'on a injecté 40 milliards de francs CFA, ça fait 60 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent, pour 500 000 électeurs. Alors on se dit, il y a un problème.
Et vous êtes plusieurs organisations à déposer cette plainte?
Il y a le CRAN France. Le CRAN, c'est le conseil représentatif des associations noires en France. Il y a la société civile gabonaise, dont moi, et puis il y a une ONG gabonaise qui s'occupe de la responsabilité sociétale des entreprises. Et puis, il y a la société civile guinéenne qui s'est jointe à la plainte, Guinée-Conakry. Donc, nous sommes nombreux, parce que ce qu'on a vécu au Gabon risque d'être vécu en Guinée-Conakry, où effectivement, cet opérateur a obtenu un marché pour faire la même chose. On soupçonne qu'il y ait une nouvelle stratégie france-africaine, c'est-à-dire il n'y a plus de coup d'État tel qu'on le faisait, c'est-à-dire quand la France n'a plus besoin d'un président, on passe par un coup d'État. Mais on introduit dans le système électoral des opérateurs qui viennent tripatouiller le fichier électoral pour toujours maintenir des dictateurs au pouvoir. Le 8 juillet, on a porté plainte au Gabon. On savait très bien que cette plainte ne devait pas prospérer. Quand on vient porter plainte en France, il est évident que la juridiction française va nous demander si nous avons fait la même chose dans notre pays. Et c'est pour ça qu'on a porté plainte d'abord au Gabon, sachant que ça ne va pas prospérer, mais ici, dans l'espoir qu'un juge d'instruction se saisisse du dossier pour exiger ce que nous exigeons à Gemalto, c'est-à-dire présenter, rendre public non seulement le contrat passé avec l'État gabonais, mais aussi le cahier de charges qui lui a permis de faire le travail. Et surtout, chercher à savoir combien cette entreprise a encaissé. Entre ce qui est mentionné dans les deux lois de finances 2011-2012, c'est-à-dire 40 milliards, et ce que l'entreprise a réellement empoché. Parce qu'il y a des soupçons de corruption d'agents publics étrangers.
C'était Marc Ona Essangui, figure de proue de la société civile gabonaise.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum, ce jeudi, plein feu sur le problème d'accès à l'électricité en Afrique. Comment en êtes-vous affecté dans vos pays respectifs? Vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi, à 19h10.
VOA Afrique, c'est sur 102 FM à Dakar. Le lancement officiel a eu lieu hier dans la capitale sénégalaise en présence du nouvel ambassadeur américain au Sénégal, James Zumwalt. En marge des cérémonies, Idriss Fall, notre envoyé spécial, a tendu son micro à des jeunes de Dakar pour leur demander l'importance des médias dans leur vie quotidienne.
Lorsqu'il s'agit de passer à la loupe les médias sénégalais, les jeunes dakarois sont assez partagés. Il y a d'abord les accros de la presse sous toutes ses formes à consommer au quotidien sans aucune modération.
Je m'appelle pas Moussa Traoré. Je ne peux pas rester un jour sans connaître ce qui se passe. D'un moment à l'autre, je parcours le monde, entre guillemets, à travers les médias. Ça devient indispensable.
C'est Fama John. Les médias occupent une place très centrale dans ma vie. On peut dire que c'est une histoire de complicité entre moi et les médias, dans la mesure où le fait de rester toute une journée sans écouter ni la radio, sans regarder la télé, ni lire les journaux, je suis un peu déconnecté du monde. Je ne parlais même pas de ne pas regarder les sites internet.
Je m'appelle Laurent Mendy. Lorsque le virus Ebola a apparu, le premier rôle des journalistes a été d'informer et d'éduquer les populations, de les sensibiliser par rapport à ce virus qui était vraiment dangereux pour notre société.
Bonjour, c'est Mam Astoukan, journaliste à Walfadjir Quotidien. En premier lieu, j'ai choisi par vocation. C'est un métier noble qui nous permet de découvrir le monde de par les informations, de par nous-mêmes journalistes, d'aller sur le terrain, de regrouper des informations, de venir les servir à nos publics, à nos auditeurs ou bien à nos lecteurs.
Il y a aussi des jeunes plutôt sceptiques.
Je me nomme Mohamed Doudoutal. Il y a un problème. La majeure partie des jeunes, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, n'ont pas le temps d'écouter de la radio. Les principaux cibles des médias sont des femmes au foyer, les femmes de ménage et comme ça. Nous avons aussi un système qui ne nous encourage pas à acquérir l'information en tant que telle. Ils font de telle sorte qu'on ne s'intéresse pas à la politique, on ne s'intéresse pas à la santé, on ne s'intéresse à rien du tout. C'est ce qui pousse beaucoup de jeunes qui n'écoutent pas certaines radios.
Je me nomme Sergei. L'implication de la radio au sein de ma vie est très importante parce que l'information, je suis au diapason de tout ce qui se passe concernant mon pays et à l'international. Mais quand même, il y a des aspects négatifs, faut qu'on le dise. Il y a de ces choses, on n'a pas besoin de les écouter, les faits divers, parce que ça nous avance à rien.
C'est important là, parce qu'à chaque fois, on est collé à l'actualité, on est au courant de tout ce qui passe dans le monde, donc on peut dire qu'il n'y a que d'importance. Mais des fois, ça agite dans la société. Je peux dire les propos émis par Wad, vraiment, ce côté-là, donc ça un peu agit la société.
Mon confrère disait, le journalisme mène à tout, à condition d'en sortir. Et pour s'en sortir, certains journalistes sénégalais sont prêts à tout, même à vendre leur âme au pouvoir et à des pièces sonnantes et trébuchantes. Ce qui suscite l'indignation de ces jeunes dakarois.
La corruption est due surtout à la faute des patrons de presse qui n'ont aucun salaire décent à leurs travailleurs.
Vous êtes en train de dire que quand on est pauvre, on doit voler.
Pour refuser ça, certains journalistes, c'est mon cas, je ne peux pas citer l'organe où j'étais, je vivais d'une galère très dure, je préfère revendiquer cela à l'interne. On m'a fait savoir que s'il n'y a pas raison de se lamenter, je préférais quitter là-bas.
Bakary Cissé, journaliste stagiaire à Oxygène FM. Je vais relativiser cette question parce que même si la corruption est omniprésente dans tous les secteurs presque, il y a certains journalistes qui ont l'honneur, qui ont la dignité en Wolof Longor, le Diom. Ils ne vont pas quand même vendre cette dignité pour être corrompus. Évidemment, de l'autre côté, dire que la corruption, elle est bien présente parce que il y a certains journalistes qui travaillent dans des conditions misérables. Si vous prenez le cas des radios communautaires, les journalistes se décarcassent, se donnent au fond, essaient vraiment de produire de très bonnes informations.
Depuis Dakar, Idriss Fall, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, International Music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
If it ain't broke, you can bet that I'm on break. If there's a wrong road, I'm damn sure gonna take. Where there's smoke, my pocket.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Et bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.